Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore salués en tout cas. Alors effectivement, l'essentiel de mes recherches porte sur les usages stratégiques des récits médiatiques dans les moments de crise, de conflits africains, et notamment dans les moments de crise dans lesquels sont impliquées la France. Donc je m'interroge sur le rôle de ces récits médiatiques dans la légitimation, par exemple, de certaines opérations françaises à l'extérieur. Pourtant, le propos d'aujourd'hui va être un peu différent. Le choix que j'ai fait, c'est de m'intéresser à la manière dont la télévision peut parfois être le vecteur ou le relais de certaines mémoires en circulation. Avec un intitulé qui a un tout petit peu bougé par rapport à ce qui était prévu initialement, l'intitulé est Retour au pays, retour à la vie, le Rwanda à la télévision française depuis 1994. Alors en 94, d'avril à juillet 1994, les grandes chaînes de télévision françaises ont globalement échoué, comme leurs consoeurs internationales, à restituer la véritable nature de l'événement en cours au Rwanda. Des confusions multiples entre guerres civiles, massacres interethniques, conflits entre deux groupes ethniques, identification tardive de la singularité de l'événement génocidaire, au mieux au mois de mai, voire au mois de juin pour certains journaux, on verra avec Jean-Philippe Sépi que pour quelques cas c'était un tout petit peu plus tôt, détournement du regard alors que le génocide est à son paroxysme, et à l'inverse, mise en survisibilité, peut-être, on discutera le terme, des réfugiés au Zaïre, à Goma, en juillet 1994, dans un contexte où le gouvernement tente de légitimer l'opération turquoise, l'événement, globalement, a été mal restitué par la télévision française, ce qui est bien établi et bien documenté aujourd'hui. Alors, faut-il pour autant disqualifier d'emblée toute aptitude de la part de la télévision à accompagner les publics dans la compréhension a posteriori des spécificités du génocide des Tutsis du Rwanda? Qu'il s'agisse de sa fulgurance, qu'il s'agisse de la créativité meurtrière, entre guillemets, puisque je reprends l'expression, c'est une expression empruntée à Hélène Dumas et à Stéphane Audouin-Rouzeau, créativité meurtrière des assassins, qu'il s'agisse de la dimension religieuse des massacres ou de la prise en charge du projet génocidaire par un État qui a mobilisé l'ensemble des leviers à sa disposition pour tendre vers la plus grande efficacité possible. Alors, cette voie de la disqualification définitive de la télévision est séduisante et d'autant plus courante chez certains chercheurs spécialistes du dossier que dans les années 90-2000, les choix de programmation sont souvent marqués par la concurrence féroce entre les chaînes, par la recherche de la plus large audience possible et puis par le souci d'être accessible aussi au plus grand nombre. Mais vous l'aurez compris, je pense que le pari sera ici inverse. À savoir que j'aimerais poser deux hypothèses initiales. La première est celle que cette télévision, dans certains de ses formats, magazine d'information, magazine d'actualité, documentaire, a pu être le reflet de certaines mémoires en circulation dans l'espace public français. La seconde hypothèse, peut-être plus difficile à étayer, on va le voir, est de s'interroger sur la capacité aussi de la télévision à peut-être créer, nourrir, enrichir, consolider, altérer ces mêmes mémoires. Donc, il y a une historiographie conséquente sur ce sujet autour de la guerre d'Algérie, par exemple. Et l'idée, c'est de voir un petit peu si ces positionnements, qui ont été importants sur d'autres événements, peuvent être réactivés à certains égards pour tester le rôle de la télévision dans la circulation de ces mémoires. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas une approche critique des discours médiatiques qui sera exposée devant vous ici ce matin, même si on ne se refait pas totalement, et il y aura quand même quelques éléments de ce point de vue, mais c'est plutôt essayer de questionner la valeur éventuelle de ces documents, de ces productions télévisuelles, que cette valeur soit testimoniale, pédagogique ou mémorielle. Alors, les logiciels mis à disposition par l'Institut national de l'audiovisuel m'ont permis de collecter entre septembre 1994 et septembre 2014, presque quasiment 140 documents audiovisuels qui reviennent sur le génocide des Tutsis, sur ses conséquences ou sur la manière dont le pays a évolué depuis 1994. Donc c'est une recherche relativement large. Donc je me suis intéressé à l'identification, à l'analyse de l'ensemble de ces 137 productions collectées sur les 6 principales chaînes de télévision dites hertziennes, entre guillemets, aujourd'hui c'est plus tellement pertinent d'utiliser cette expression, et avec effectivement l'exclusion des journaux télévisés, c'est un format spécifique que j'ai étudié par ailleurs, on pourra en discuter, mais voilà, pour essayer de condenser un peu le propos, je l'ai exclu de cette étude, puisque les logiques sont différentes à mon sens. Au total, nous avons depuis septembre 1994 75 heures de programmes qui ont été diffusées, C'est au total un peu moins de 4 heures de programme par an consacrées au thème. Donc un premier constat, c'est que c'est relativement peu. Bon, je porte un jugement là, mais bon, 4 heures par an par rapport à l'ampleur de l'événement dans d'autres domaines et par rapport à l'ensemble des productions qui ont été diffusées sur celui-ci, on peut juger que c'est relativement peu. Il va falloir essayer de nuancer et peut-être de dégager un certain nombre de disparités entre les périodes. Alors j'ai choisi de focaliser mon propos sur les principales temporalités de retour sur l'événement que j'ai pu identifier, temporalités que j'ai identifiées en fonction du nombre et de la durée des productions, des contextes de programmation, de la nature des documents diffusés, des logiques supposées de cette programmation, et je n'ai peut-être pas été aussi loin que vous l'avez dit en préambule sur la fabrique en tant que telle de ces productions, et sur les témoins et les médiateurs présents à l'antenne. Et puis plus ponctuellement, mais ça pourrait faire l'objet aussi de deux développements, j'essaierai de vous apporter des éléments sur les apports et les écueils des leviers mobilisés par la télévision, et sur les accords et les dissonances entre les récits de télévision et les autres récits en circulation, témoignages, récits historiques, récit judiciaire, récit négationniste. Alors, ces trois temporalités dégagées, vous allez voir, je ne suis pas complètement la chronologie. À mon avis, il y a un premier temps que j'ai qualifié du temps de l'immédiat post-génocide, les années 94 à 1998. Durant ces quatre années, le Rwanda reste présent à la télévision française avec 54 documents identifiés pour 20h25 de programme, ce qui fait là un peu plus d'une dizaine de sujets par an en moyenne, avec un pic en 96, 22 sujets pour 7 heures de programme. Et j'ai pu identifier trois logiques de programmation durant cette première période. La première logique, c'est essayer de revenir sur l'événement pour le comprendre, essayer de clarifier les faits. Une ambition qui donne lieu à différents types de programmes. Plusieurs rétrospectives historiques. Certains dans cette salle se souviennent peut-être de la Marche du siècle diffusée le 21 septembre 1994, sur laquelle je vais revenir, parce que l'émission me paraît intéressante. Elle donne lieu aussi à un certain nombre de reportages, souvent sur une thématique précise. Je citerai « Chrétien dans l'enfer du Rwanda », diffusé sur France 2 le 9 octobre 1994. Elle donne lieu à la diffusion quasi immédiate d'une première vague de documentaires, comme « Maudit soit les yeux fermés » de Frédéric Laffont, comme « Une histoire qui mène au génocide », programmée sur la 5e le 25 février 1996. Elle donne lieu aussi à la mise en valeur d'un certain nombre de récits, et notamment les récits de Jean-Christophe Klotz et de Marc Weiter, récits déjà présents au moment de l'événement, qui sont repris dans une émission d'envoyé spécial le 22 décembre 1994. Cette première période voit aussi se prolonger les accusations portées contre le rôle joué par la France au Rwanda avant et pendant le génocide. Des accusations qui, je le rappelle, sont déjà présentes dans l'espace public en mai, juin et juillet 1994. La Marche du siècle, toujours elle, consacre un volet complet déjà bien informé au sujet. Géopolis revient sur l'opération turquoise qui est qualifiée, je cite, « d'alibi humanitaire pour une manœuvre politique ». Cette première période et ce désir de retour sur l'événement à des fins d'intelligibilité est parfois, je veux dire, contrarié par un retour sur l'actualité des années 95, 96 ou 97. Dans la mesure où on observe aussi dans ces productions un traitement, par exemple du massacre de Kibeho en 96, de la question du retour des réfugiés du Zaïre dans le contexte des débuts de la première guerre du Congo, là je suis en novembre 1996, ou certaines émissions qui reviennent sur les massacres qui ont été commis durant cette première guerre du Congo. Il y a une édition spéciale là aussi de la Marche du siècle, le 4 juin 1997, avec ici, peut-être paradoxalement, un Rwanda qui est plutôt présenté comme agresseur, responsable de la déstabilisation du Zaïre voisin et des massacres de la population rwandaise en fuite. Alors, je ne vais pas revenir sur le fondement ou non de ces accusations, ce n'est pas tout à fait le propos ici, même si on peut aussi en discuter à l'issue de la communication. Ce qui me paraît intéressant, c'est que ces accusations portent en elles le risque de réactivation de certains des schémas dominants de la couverture de 1994, à savoir l'existence d'une haine atavique entre Hutu et Tutsi, génératrice de conflits ancestraux à répétition. Mais du coup, la question de la documentation, il faudra qu'on la pose aussi à un moment donné. Alors, plutôt que de vous présenter l'ensemble des dispositifs convoqués durant cette première période, qui sont d'une grande diversité, je souhaiterais attirer votre attention sur deux propositions assez radicalement différentes, deux propositions qui ont été faites au public français durant ce premier moment. La première proposition, c'est donc cette émission de la Marche du siècle, le 21 septembre 1994. Il s'agit d'une émission spéciale qui, quelques semaines après la fin du génocide, se donne pour ambition de décrypter l'événement en en présentant les origines, les acteurs et les victimes. Elle est diffusée à une heure de large audience et la fabrique de cette émission a manifestement mobilisé des moyens conséquents. 9 journalistes sont partis sur le terrain en enquête pour essayer de documenter une enquête réalisée par Sylvie Cosma. Alors je passerai sur les approximations des lancements de Jean-Marie Cavada, qui sont réels et qui sont nombreux, et sur le choix du titre « Autopsie d'un génocide ». Pour essayer de centrer plutôt la réflexion sur les dispositifs qui ont été mobilisés à l'époque. Cette émission se structure autour de 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est le retour au Rwanda en compagnie de Madeleine Mukamabano, journaliste à RFI, mais présentée ici seulement à l'écran comme une Rwandaise vivant en France et qui a perdu une partie de sa famille lors du génocide. Elle nous fait pénétrer dans l'espace post-génocide à la recherche des traces de celui-ci. Elle sert de guide, elle sert d'intermédiaire, elle sert de médiateur pour mener les téléspectateurs sur les lieux de mémoire, déjà à l'époque Nyamata et Ntarama, pour recueillir la parole des rescapés, voire déjà à l'époque celle de la famille des tueurs. C'est la première série de captures d'écran. Un deuxième thème vise à l'établissement d'un récit à vocation historique des faits. Récit qui se décline principalement autour de 3 sous-thématiques, la période coloniale, la montée de l'extrémisme dans les années 1990, l'historique de la coopération entre la France et le Rwanda. Et je dois dire que cet historique, même s'il est imparfait, même s'il y a un certain nombre de failles, d'oublis, de lacunes, de documents qui ont surgi depuis, bien sûr, étonne quand même globalement aujourd'hui par sa densité et par la précision des informations apportées. Surtout si on compare ces informations à ce qui avait été traité par une grande partie des médias quelques mois plus tôt. C'est une succession de montages d'archives, d'expertises. Ici, c'est l'expertise belge qui est sollicitée, notamment celle de Luc de Hirsch. Et c'est par le croisement des sources que les journalistes tentent de répondre et de rendre compte de l'événement. Comme ça, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Une dernière thématique correspond à la recherche des génocidaires, à la déconstruction de leurs paroles par la confrontation aux documents et aux autres témoignages, et à la question de leur impunité. Alors, ici, vous avez une scène qui a été reprise à de très très nombreuses occasions par la télévision depuis 1994, qui est une scène un peu fondatrice et que je voudrais vous diffuser. Ça va rappeler des choses à certains, puis peut-être que d'autres ne la connaissent pas, donc si la vidéo est avec moi. Aussi.
Le colonel Bagosora, ancien directeur de cabinet au ministère de la Défense, il est surtout l'un des personnages principaux cités par le repenti Janvier Africa comme membre des escadrons de la mort.
Les escadrons de la mort, ça n'a jamais existé au Rwanda.
Ça n'a jamais existé, mais il y a un escadron de la mort du FPR, ça oui.
Il n'y a pas d'escadron de la mort côté du gouvernement?
Non. Non. C'est archi faux. Ça n'a jamais été. C'est une invention pure et simple du FPR.
Vous n'avez jamais participé à des réunions occultes?
Non, vraiment. En fait, ce que j'ai pu me rendre compte, des journalistes, et même déjà que j'ai rentré, ils ont déjà des préjugés. Ils regardent pour eux. Pourquoi faire des réunions occultes?
Il y a des témoins qui rapportent ça, ce qu'on appelle des repentis.
Des repentis?
Oui. Des gens qui ont participé à ces réunions en votre présence.
Ah, dis donc, j'aimerais bien les voir. J'aimerais bien revoir ces repentis, parce que moi, personnellement, j'ignore ces réunions.
Est-ce que vous accepterez de témoigner devant la justice internationale si un jour on vous demande des comptes?
Bien sûr. Bien sûr, mais pas devant le FPR. Pas devant le FPR, non. Parce qu'il ne peut pas être fait les juges et parties. Mais devant la Cour internationale, je suis prêt à y aller. Même aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça.
Sincèrement, pensez qu'ils peuvent les amener?
Amener les gens que j'ai tués. Vous êtes aussi payé. Ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à me narguer jusqu'à ce point. Merci.
Alors voilà, alors évidemment, on peut se poser la question pourquoi donner la parole à un génocidaire, mais la fin montre bien la disqualification du propos avec Bagosora qui déverse une sorte de haine quasi immédiate face à une question qui le met en difficulté. Et puis la construction de l'émission permet aussi à faire en sorte que ce témoignage ne puisse pas être reçu comme un témoignage légitime par les téléspectateurs. Alors, cependant, malgré tous les apports de cette émission, malgré la profusion d'images, de sons, on a déjà la diffusion de certains extraits de la RTLM, on a aussi le discours du 19 avril 2004 de Théodore Cindy Kouboabo qui est diffusé ici. Donc il y a pas mal d'images, beaucoup de sons, de témoignages, une investigation qui est vraiment poussée. Et malgré tout, on ne peut qu'avoir le sentiment, à revoir cette émission, que quelque chose résiste dans la capacité de ces sujets à faire saisir, autant que faire se peut, autant que ce soit possible, l'événement par la télé, par les téléspectateurs. Alors ce sentiment de résistance ou d'incomplétude tient sans doute beaucoup aux difficultés à mettre en image le génocide et l'extermination. L'avant-génocide est bien documenté dans l'émission, en images d'archives. Les conséquences du génocide sont visibles à travers des plans, notamment de cadavres à terre, mais ce qui manque, c'est le moment de donner la mort. C'est l'acte de donner la mort et c'est aussi le moment de basculement des personnes entre la vie et la mort. Ce moment où ces moments ne sont pas présents en image dans cette première émission. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque finalement peut-être l'entendement ensuite du public. Et ça m'a paru intéressant parce que derrière, l'ensemble des émissions que j'ai visionnées cherchent à combler ce manque, cherchent à compenser cette absence. Et cette absence, elle est évidemment compensée par une séquence que je vais, pour le coup, là, pas vous rediffuser par souci de temps, qui est celle de Nick Hughes, qui est quasiment, là, à ma connaissance, hein, mais peut-être que Nathan, tu diras autre chose cet après-midi, mais à ma connaissance, c'est la seule séquence où on voit effectivement des génocidaires en train de donner la mort. Donc, séquence qui est reprise à de multiples occasions par d'autres émissions postérieures. Et puis, il y a d'autres images, parfois, qui interviennent. Je pense notamment à des plans, à des séquences, plus exactement, qui ont été prises par la télévision rwandaise en 94 sur les barrages, où on voit une femme qui est en train d'agoniser. Mais c'est extrêmement rare, en fait, qu'on voit ce moment vraiment où les gens sont en train de basculer. Alors, durant cette même période, une deuxième proposition, et puis je crois que je vais être obligé de raccourcir mon propos assez rapidement, le magazine Brut, du 3 juillet 1995, je vais immédiatement vous lancer la petite vidéo pour vous montrer l'alternative choisie par Arte.
Ouais, il venait à 10 ou 15.
Et ton père, il a essayé de vous défendre, de défendre la famille, ou il n'a pas pu?
Il n'ose pas parce que... Tu n'oses pas se combattre avec quelqu'un qui a le machette. Ou 10 personnes qui ont de machette. C'est impossible.
Qu'est-ce que tu... Dis-moi ce que tu as... Comment tu as vécu, ce que tu as pensé pendant les 4 jours où tu étais dans ce plafond. Ça doit être terrible, 4 jours dans un plafond, comme ça.
Ce que je peux dire, je pensais que moi, je dois mourir. Parce que je n'avais pas aucune chance. Quand j'ai vu la voiture de Croix-Rouge, là j'avais l'espoir. Un peu. Parce que je savais bien, il va m'enlever. Je vais quitter au plafond. Mais quand on va faire 10 km, on va m'enlever de la voiture. Je savais bien. Grâce à Dieu que je suis ici, quoi.
Bon, et comment ça s'est passé donc après? Alors, donc, tu as été dans la voiture de la Croix-Rouge. Et comment ça s'est passé pour arriver jusqu'à Bujumbura?
J'étais dans la voiture de Croix-Rouge.
Il mériterait d'être décliné. Il y a 3 minutes 30 hein, quasiment de l'interview. Alors, évidemment, un dispositif qui manque un peu de pudeur avec ces gros plans. On resserre la caméra au moment où les larmes jaillissent. Et en même temps, cette proposition, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle annonce déjà une tendance à la centralité croissante des témoignages, notamment des témoignages de rescapés ou de témoins directs de l'événement, tendance qui va se renforcer au début des années 2000, et notamment lors des temps de commémoration. Mais on pourra reparler peut-être de ce document. D'accord, très bien. Il ne faut pas diffuser de vidéo, c'est une mauvaise idée. Alors, la deuxième temporalité, c'est le temps des commémorations. Les contextes commémoratifs des années 2004 et 2014, qui sont des périodes très particulières de retour sur l'événement, qui semblent attester de la reconnaissance par les programmateurs de chaînes ou par les rédactions de la singularité et du statut spécifique de celui-ci. Alors, pour 2004, 15 documents recensés, une durée de 10h42. Pour 2014, c'est un peu moins, 7h05 de programme avec moins d'une dizaine de documents. Sachant que ces productions sont diverses dans leur nature et parfois programmées à des heures de forte audience, je pense notamment à un sujet de 7 à 8 diffusé deux sujets de 7 à 8 en février et en avril 2004. Il semble donc qu'on accorde bien un statut spécifique au génocide des Tutsis, mais malgré tout, il faut s'interroger aussi sur la fréquence décennale qui est choisie par la télévision pour commémorer l'événement. France Culture, la rédaction de France Culture, fait des choix qui sont radicalement différents. Alors vous me direz, c'est France Culture, certes, mais vous voyez, ça montre qu'une rédaction peut opter pour certaines alternatives. En 2004, à mon sens, il y a cinq grandes dominantes qui peuvent être mises en valeur dans les cadrages qui s'imposent. La première, c'est l'organisation de soirées-événements, avec France 5 ou Arte, qui font le choix de diffuser en première partie de soirée des documentaires suivis d'un débat en plateau. Je pense notamment au documentaire « Un cri d'un silence inouï » où, au Rwanda, on dit « La famille qui ne parle pas meurt », le premier d'Anne Lenné, le second d'Anne Aguillon, dans les deux cas suivi d'un débat où Jean Hatzfeld, dans lequel Jean Hatzfeld est présent. Deuxième dominante, les témoignages de victimes rescapées, qui acquièrent une centralité plus grande en 2004 que ce n'était le cas dans les années 94 à 98. On peut d'ailleurs s'interroger, mais je pense que tu vas y revenir, sur le rôle de Jean Hatzfeld dans cette approche, qui n'est pas nouvelle, mais qui se renforce. Et d'ailleurs, Jean Hatzfeld qui joue aussi à la télévision le rôle de médiateur, ici avec Nicolas Poincaré, dans l'émission 7 à 8 du 4 avril. La troisième caractéristique, c'est l'attention croissante portée à la reconstruction du Rwanda et des Rwandais, avec les thèmes du deuil, de la réconciliation, du pardon, de la reconstruction des individus qui sont très présents. Des sujets qui se portent sur l'étude des rapports entre rescapés et bourreaux, sur le sort des orphelins ou sur la difficulté d'intégration des Rwandaises qui ont eu des enfants à l'issue des viols. Avec parfois, toujours, des approximations, des présentateurs dans les lancements. Je ne citerai ici, mais j'en ai toute une série, Élise Lucet qui nous dit le 27 novembre 2004 que les massacres entre Hutus et Tutsis ont atteint une telle ampleur que le mot génocide a été le seul à pouvoir les qualifier. Laurent Geoffrin parle de massacre de représailles, Emmanuel Chin de Tutsis tués à la machette. Quatrième caractéristique, outre Jean Hatzfeld, certains médiateurs apparaissent. Ils étaient parfois déjà présents dans les médias, mais pas forcément à la télévision. Alors je pense notamment à Patrick de Saint-Exupéry pour la sortie de L'Inavouable, qui est présent à plusieurs reprises en plateau. Je pense aussi à Roméo Dallaire qui vient présenter par exemple la sortie de son ouvrage « J'ai serré la main du diable ». J'avais une séquence à diffuser, mais que je vais sauter. La cinquième et dernière caractéristique de ces commémorations de 2004, c'est la poursuite de l'intérêt pour le rôle joué par la France, mais aussi l'attitude toujours très crispée des autorités. Alors là, il y a un moment de télévision assez exceptionnel, c'est la diffusion de Tuer les tous, Rwanda, histoire d'un génocide sans importance, exceptionnel déjà pour la valeur documentaire apportée par le documentaire diffusé, mais surtout par la séquence qui suit. C'est-à-dire qu'il y a un débat en plateau avec Raphaël Glucksmann, notamment, qui est présent, mais Édouard Balladur et Hubert Védrine ont manifestement refusé l'invitation d'Élise Lucet, mais ont demandé un droit de réponse. Et vous avez une longue séquence où Édouard Balladur est dans son bureau en train de répondre et de démonter point par point le documentaire qui vient d'être diffusé, mais il le démonte en fait en reprenant l'argumentaire de la communication officielle de juillet 1994. Donc là, il faudrait presque faire une étude en tant que telle sur ce moment de télévision où là, c'est toute tous les récits un petit peu falsificateurs de l'événement qui resurgissent par la parole des politiques, et ça me paraît assez essentiel, mais on pourrait centrer le propos là-dessus. Je vais donc aller vers ma conclusion sur le deuxième temps de commémoration 2014. 10 ans plus tard, si les continuités sont nombreuses, le regard porté par la télévision française sur le génocide et sur le Rwanda a changé. Alors les thématiques du pardon, de la réconciliation, de la reconstruction personnelle restent centrales et importantes dans la couverture. Un des cadrages dominants reste le défi que constitue pour la société rwandaise et pour les journalistes aussi, qui perçoivent cette question comme centrale, la reconstruction d'un commun, la reconstruction d'un vivre ensemble entre victimes et bourreaux. Cependant, deux éléments nouveaux obligent le téléspectateur à un déplacement du regard. Le premier est l'attention portée à la réussite économique du nouveau Rwanda. Alors, nouveau Rwanda, cette expression en elle-même aussi, elle doit être questionnée. Pendant longtemps, dans la presse et à la télévision, le nouveau Rwanda, c'est plutôt le risque d'un nouveau génocide. 2002-2003 en Côte d'Ivoire, je pense à 2007 au Kenya lors des violences post-électorales, je pense au début du conflit du Darfour. Quand l'expression intervient, c'est comme le summum de la barbarie humaine. C'est pour qualifier le risque d'un génocide à venir. Et en même temps, ici, en 2014, ce nouveau Rwanda, expression qui apparaît un peu plus tôt dans ce moment charnière que sont les années 2006 à 2010, c'est une expression qui désormais vise à mettre en valeur la modernisation du pays, sa croissance économique, avec la référence au Singapour africain, entre guillemets, ou les résultats du projet Rwanda Vision 2020. Et puis, ce nouveau Rwanda s'incarne aussi en 2014, et là, je pense que c'est quelque chose qui est encore très proche, donc vous êtes sans doute nourri de ces images, de sa jeunesse. La jeunesse rwandaise, parfois nommée la génération Kagame, là aussi, avec guillemets. C'est une génération qui n'a pas connu le génocide et dont les témoignages surgissent désormais à l'écran, un peu avant 2014 aussi, mais très présent en 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que cette jeunesse ne témoigne évidemment pas de son vécu de l'événement, mais des échos, des secousses ou des répliques du génocide sur leur propre vie. Et donc c'est un autre récit, une autre mémoire des événements qui est ici convoquée, avec des témoignages qui s'inscrivent dans un présent vécu de manière moins douloureuse que pour les rescapés, et avec une capacité, une volonté manifeste de se projeter vers l'avenir. Alors il y a d'autres thèmes qui sont présents, sur lesquels je vais passer, la traque des génocidaires. C'est un thème qui apparaît au début des années 2000, notamment avec le procès qui s'est mis en place à Bruxelles en 2001, avec le début aussi des premières expériences Gacaca de la même manière en 2001, avec dès 97-98 les premières condamnations du TPIR, et le thème de la justice est présent en 2001 et jusqu'à 2004 de manière assez forte, et il ressurgit à la fin des années 2000, notamment par l'entremise d'Alain et d'Afroisa Gauthier, hein, qui sont présents à la télévision, alors pas forcément suffisamment, voilà, ça on peut questionner, c'est un jugement de malheur, mais en tout cas ce sont des médiateurs importants, et vous avez une sorte de format qui s'impose à la télévision sur ces magazines qui, par le biais de l'investigation, traquent les génocidaires, essaient de retrouver leur itinéraire depuis 1994 et essaient simultanément de déconstruire leurs paroles en avançant des documents, en avançant d'autres types de témoignages. Et voilà, là, on a vraiment un type de mise en valeur qui intervient de manière très récurrente. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il y a deux périodes que j'ai quasiment occultées. Ce sont ces fameux moments charnières, les années 98-2003 et les années 2005-2013, avec beaucoup moins de couverture. Hein, l'événement est, je ne vais pas dire absent, mais il est présent de manière extrêmement diffuse à la télévision. Il y a très peu d'intérêt pour le Rwanda dans ces moments-là. Et en même temps, ce sont des moments à ne pas court-circuiter, parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'apparaissent de nouveaux médiateurs, de nouvelles générations de chercheurs, de nouveaux types aussi de production culturelle ou artistique qui parfois filtrent par la télévision, parfois, pas systématiquement, loin de là. Hein, l'ensemble des productions culturelles importantes qui ont émergé entre 1998 et 2003, il est assez rare d'en trouver la trace à la télévision. Le groupe offre une citation dans une émission de Métropolis en 1999. Hein, donc vous voyez un exemple, mais là aussi je pourrais revenir sur ces points. Je conclue en ayant pour le coup court-circuité une partie du propos. Alors, j'avais trois éléments de conclusion, je vais me concentrer sur le premier. En gros, alors, sur ces liens entre télévision, histoire, sur ces liens entre télévision, histoire et mémoire. Alors, si on peut les juger insuffisantes en nombre et en qualité, les productions télévisuelles permettant d'opérer un retour sur l'événement attestent, à mon sens, de la reconnaissance de la singularité de cet événement, même si les singularités de celui-ci ne sont pas forcément toujours bien mises en valeur. Diverses dans leur nature, elles placent de manière durable au centre de leurs préoccupations le retour à la vie des Rwandais et les enquêtes au sein du Rwanda post-génocide, d'où le titre de la communication. Progressivement, l'intérêt des journalistes et des chaînes s'est déplacé des questionnements sur la fulgurance et sur l'ampleur du génocide vers un autre défi à l'entendement que constitue pour eux la situation post-génocidaire exceptionnelle de cohabitation entre les bourreaux et leurs anciennes victimes et de la manière dont le Rwanda se reconstruit. Et c'est cet intérêt d'autant plus vif qu'il permet de soulever des enjeux, pardon, culpabilité, justice, réconciliation, qui sont parfois aussi relayés par les autres autorités rwandaises. Et en même temps, simultanément, et je conclue sur ce point, il me semble qu'il y a une tendance à une double invisibilisation à la télévision. Double invisibilisation des personnes qui ont perdu la vie pendant le génocide, et si vous voulez, leur présence n'est pas restituée par les images, puisqu'on a une rareté, une répétition des images qui reviennent sur l'événement et qui tentent de faire ressurgir ce temps réellement des massacres. Et en même temps, on a aussi une invisibilisation finalement des destins singuliers de ces personnes. C'est-à-dire qu'il est rare que la télévision, ça existe, hein, j'ai quelques séquences, mais il est rare que la télévision parvienne finalement à restituer, alors elle le fait parfois par la parole des rescapés, par des rescapés qui témoignent de leur vie d'avant, de la famille, à travers des photographies. Mais c'est extrêmement rare. Et finalement, on peut s'interroger sur ces difficultés, cette incapacité, ou sur le fait que peut-être la télévision et les hommes de télévision n'ont pas pris à bras le corps ce défi de faire ressurgir la mémoire et l'identité des personnes qui ont perdu la vie en 1994. Voilà, je vous remercie. Et puis j'espère qu'il y aura un échange, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui sont passés un petit peu à travers. Merci beaucoup de votre attention.